Full Course Cielo, le magazine des sports mécaniques, Olivier Boutevin.
Bonjour à tous, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue dans la troisième émission de Full Course Cielo. Aujourd'hui, nous allons particulièrement parler de moto avec un interview de Guillaume Chollet qui a piloté au Dakar 2024. Et également, nous écouterons l'interview réalisée par Christian Cézelki, animateur de notre radio, lors du rallye Enduro du Touquet avec le vainqueur de cette épreuve. Allez-y, c'est parti! On commence avec Guillaume Chollet, 8 participations au Paris-Dakar, avec ses débuts en 2016. Il a fini cette année 58e au classement général. L'année dernière, il avait abandonné suite à une chute. Et donc, on va recueillir ses premières impressions de cette dernière course. Et également, tous ses débuts également, afin de savoir comment on s'organise pour disputer une épreuve de longue haleine. Il faut toute une assistance derrière, donc on va recueillir un peu toutes ces impressions. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour.
Très heureux de t'accueillir sur l'antenne d'Igradio Sud-Vendée dans l'émission Full Course Cielo. Est-ce que déjà tu peux te présenter auprès du public ?
Donc Guillaume Chollet, pilote sur le Dakar, pilote moto sur le Dakar, sur mes 8 Dakar. Sur 8 Dakar, j'ai fait 5 arrivées pour 3 abandons. Voilà.
Alors comment t'es venu la passion de la moto ?
C'est une histoire de famille. Hein. Mes parents sont passionnés de moto, ils m'ont transmis le virus depuis gamin. Donc voilà, c'est dans toute la continuité. Et ils m'ont donné le goût à la compétition en m'emmenant sur les 24 heures du Mans, les Grands Prix moto, les courses tout terrain. Et le virus, je l'ai chopé comme ça.
Alors, raconte-moi un peu tes débuts au Dakar. Comment tu es arrivé sur cette épreuve ?
Comment je suis arrivé sur cette épreuve ? Tout simplement, c'était, on regardait le Dakar tous les mois de janvier en famille, et donc ce qui m'a donné envie de participer à cette course mythique. Et très jeune, aux alentours des 20 ans, j'ai commencé le tout terrain en enduro. Et j'ai eu la chance de faire de belles rencontres qui m'a permis de progresser. Et je suis parti sur mon Dakar à l'âge de mon premier Dakar aux alentours des 30 ans. Et le premier Dakar s'est super bien passé car je suis finisher également. Et c'est une aventure humaine et surtout une aventure qu'on souhaite partager parce qu'on emmène beaucoup de gens avec nous dans l'aventure, que ce soit les partenaires, que ce soit les supporters, la famille, les copains. Donc forcément, c'est chouette.
Ça ne doit pas être évident de partir comme ça au Dakar parce que c'est une course de longue haleine. Comment ça se prépare dans l'assistance et tout ça, les bivouacs ?
Eh bien moi, comment ça se prépare ? Je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de sport, donc j'en fais quasiment quotidiennement. Donc je n'ai pas de programme bien établi sportivement. Enfin si, j'ai un préparateur physique, bien sûr, mais j'ai pas un programme où je me dis 6 mois avant j'arrête tout ce que je fais pour faire que du sport pour me préparer pour le Dakar. Je me prépare à longueur d'année pour le Dakar et forcément à partir de septembre on commence à faire attention un peu plus à pas se blesser et faire les choses correctement en suivant ce que dit son préparateur physique. Ensuite, ça c'est l'aspect sportif. Après, il y a l'aspect recherche de partenariat. Donc ça, c'est pas un élément où j'excelle. C'est vraiment du bouche à oreille et j'ai la chance d'avoir des partenaires fidèles toutes les années. Et ensuite, l'assistance. La première fois que je suis parti sur le Dakar, c'était un petit peu une assistance entre copains. La deuxième année, je suis parti avec. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de chez Yamaha qui m'a permis d'intégrer la structure HFP. Et je suis resté avec Yamaha pendant 7-8 ans. Et cette année, je suis parti avec un team espagnol qui m'avait contacté en début d'année pour que je puisse rouler pour eux. Et c'était vraiment une belle aventure parce que le team était bienveillant. Il y avait une bonne ambiance, j'avais un top mécano, enfin, j'ai vraiment vécu un beau Dakar avec ce team.
Quelles émotions tu as ressenties lorsque tu as disputé ton premier Dakar ? C'est-à-dire qu'on le voit à la télé, puis d'un coup, là, hop, t'es dans le désert tout seul. Quelles ont été tes sensations ?
Eh bien, les sensations, alors, ça ne m'a pas lâché, en fin de compte, parce que je suis tellement passionné par cette course et la moto, qu'à chaque départ, je m'imagine toujours, entre guillemets, spectateur et non acteur. C'est vraiment une sensation particulière. Et le matin du départ de la course, je suis vraiment très excité, mais avec un brin de peur, mais la peur de l'abandon. Donc, c'est vraiment une excitation et les sas d'attente sont assez longues. Tant qu'on n'a pas le casque et qu'on n'a pas enclenché la première, on est dans un mode où on n'y croit pas. Et le premier Dakar, forcément, c'était juste magnifique. En plus, j'avais la chance d'avoir mon père et un ami avec moi qui suivaient la course et de pouvoir les emmener sur le podium d'arrivée. C'était un peu la cerise sur le gâteau. Donc, c'était vraiment une super émotion. Et il y a des jours, j'y crois toujours pas que je fais le Dakar.
Alors, justement, quels sont les dangers lorsqu'on n'est plus à poteau au Dakar ?
Les dangers, en fin de compte, c'est à chaque kilomètre, chaque mètre, il faut être hyper vigilant. Mais même en étant vigilant, le risque zéro n'existe pas. Après, je prends souvent le parallèle entre le Dakar, où oui, effectivement, c'est médiatique, on met souvent cette épreuve comme un fait dangereux. Mais au final, quand on regarde bien, et on en parlait avec mon team manager ce week-end, il y a beaucoup moins d'accidents sur le Dakar que des accidents de la route tous les jours. Alors c'est une épreuve dangereuse, oui, certes, car il y a la navigation, on peut tomber dans un trou, il y a la vitesse qui est là, mais souvent de fois on est maîtrisé et on fait attention parce que on sait que c'est dangereux et on veut revenir, surtout.
Lorsqu'on a un problème au Dakar, il faut souvent se débrouiller tout seul. Il faut se dépanner par ses propres moyens en attendant l'assistance, non ?
Alors, en spécial, on n'a pas d'assistance. Donc, il faut vraiment se débrouiller par nos propres moyens. Donc, on cherche la panne, on essaye de se débrouiller. On essaye coûte que coûte de repartir. Et surtout de sortir de la spéciale pour pouvoir rejoindre l'assistance pour qu'ils puissent réparer. Alors il y a des fois ça fonctionne, des fois malheureusement ça fonctionne pas et il nous coûte un abandon.
Cette année tu as obtenu ton meilleur résultat, 58e au classement général, donc raconte-nous un petit peu cette course 2024.
Alors cette course 2024 je l'ai vécue pas comme les autres parce que je regardais pas le classement, j'y allais vraiment pas pour faire un classement et je savais à peu près où j'étais situé parce que forcément on part par l'ordre de départ est donné par l'arrivée de la veille, mais je regardais pas qui c'est qui était devant moi, combien de minutes ou quoi. Là l'objectif était vraiment de finir la course car l'année dernière j'avais abandonné sur chute, donc et j'ai vécu un super Dakar du coup, comme c'est une course aussi par élimination. Donc j'ai roulé tous les jours à ma main, j'ai pas pris de risque. Super course, franchement cette année ça m'a rappelé des bons souvenirs où j'ai pas sorti la caisse à outils pour réparer la moto, j'ai tout le temps roulé, j'ai toujours eu la banane sous le casque, donc super épreuve cette année et je pense que le résultat c'est pour ça qu'il est là.
Alors justement il y a beaucoup de pilotes, des fois, on voit lors des émissions télévisées, qui se perdent un petit peu lors des parcours. Comment on s'oriente un petit peu pour rallier l'arrivée ?
Eh bien, disons que sur nos motos, on a des roadbooks avec des caps à suivre, des directions à suivre. Et donc, il faut qu'on soit le plus juste possible. Mais parfois, sur un cap, parfois, on se trompe un petit peu de degré. Et au bout de 10 km, on s'est écarté de la piste principale, donc on peut se perdre où il y a des pistes parallèles et on prend pas la bonne piste comment on sait qu'on s'est perdu, c'est qu'on a des points validés, des waypoints, ce qu'on appelle des waypoints, et quand on arrive au kilométrage où on doit valider le waypoint, si on voit qu'il valide pas, ça veut dire qu'on n'est pas sur la bonne trace, donc on fait demi-tour pour chercher la bonne piste et on arrive toujours à s'en sortir. Après, ce qui est dommage quand on se perd, c'est que on perd du temps dans la spéciale et surtout on consomme de l'essence et si on se perd trop souvent, à un moment donné on va tomber en panne d'essence et on ne sortira pas de la spéciale.
Alors comment s'organise le bivouac justement? Vous rassemblez tous au même endroit ou vous dormez dans le même lieu? Comment ça se passe?
Ah non, c'est une ville de 5000 personnes qui se déplacent quasiment tous les jours. Donc, on fait entre 600 et cette année, on a fait la plus grande journée à 900 et quelques kilomètres. Donc tous les jours, on part à un point A, on va au point B, et ainsi de suite, pour rejoindre le bivouac. Et après, pendant les spéciales, on a des points où on peut ravitailler en essence, qui sont aux alentours des 200 kilomètres souvent. Et on est neutralisé 20 minutes pour pouvoir faire le plein d'essence et pouvoir repartir dans notre bonne tranche horaire. Et puis voilà.
Alors dans ces bivouacs, il se crée des liens d'amitié entre motards où on s'échange les informations ou également on se donne un coup de main pour réparer la moto?
Alors oui, il y a une solidarité sur le Dakar. Enfin, on est tous dans la même galère. Après, c'est vrai que il y a des groupes qui se créent parce que on roule à peu près pareil. On se retrouve souvent avec quasiment les mêmes pilotes. Mais malheureusement, on peut pas s'arrêter à chaque fois qu'il y a un pilote qui est en panne. Donc, on demande si ça va, s'il a besoin de quelque chose. Alors, si c'est un pilote qu'on connaît pas, on lui demande s'il a besoin ou quoi. Et autrement, on s'en va. Mais c'est vrai que si c'est un copain, on s'arrête et on essaye de trouver des solutions ensemble. Et pas oublier que c'est une aventure humaine. Donc, si un copain ou un autre pilote est dans la panade, il faut pas oublier que le lendemain ça peut être nous, donc on essaye de faire le maximum, mais après on est pris par le temps aussi, par le Dakar, parce que il y a des grosses journées, donc si on s'arrête souvent, on n'est pas sorti le soir de la spéciale de bonne heure, quoi.
Oui, c'est ça. Surtout des fois, on arrive très très tard. Des fois, on a juste le temps de se reposer et refaire le plein, changer les roues de la moto, et puis on repart, quoi.
Moi ça va à peu près, j'arrive pas trop tard au bivouac, donc j'ai souvent la chance de pouvoir me reposer correctement. Mais effectivement, il y a certains pilotes qui rentrent tard et ils font un petit peu la mécanique, ils mangent, ils dorment quelques heures et ça repart. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur un Dakar, chaque minute est comptée et il faut se reposer dès qu'on a l'occasion, parce que c'est 15 jours de course et il faut faire attention à tous les paramètres pour pouvoir être en forme jusqu'au bout.
Parle-nous de ta moto, c'est quoi comme moto, comme marque, cylindrée?
Alors moi c'est une KTM 450, car en championnat du monde on ne peut plus avoir de moto des 700, des 800 ou autres. Maintenant c'est 450 cm3. Après c'est une moto comptée client, ce qui s'appelle les comptées... C'est le compte des clients, c'est des motos officielles qui sont vendues au grand public. Et cette moto, je l'ai eue via mon concessionnaire Motopulsion à Niort. Et puis voilà, donc c'est une moto entre guillemets d'enduro, sauf que elles sont un peu plus longues pour la stabilité, il y a beaucoup plus de carburant, il y a la tour de navigation.
Donc je suppose que tu repars au Dakar 2025.
Ouais, c'est dans les tuyaux, donc... L'objectif, de toute manière, maintenant, enfin, tant que je vais pouvoir rouler, je le ferai. Tant que j'aurai la santé, la possibilité de partir sur le Dakar, je partirai. Après Dakar 2025, et on va essayer. Je suis à ma 8e participation. L'idée, c'est de faire 10, voire plus, quoi. Donc, maintenant, en principe, on sera au départ du Dakar 2024 dans les mêmes conditions, avec la même structure, Cow Team. Ça s'est super bien passé et ils veulent qu'on continue notre collaboration.
Comment va se passer ta saison entre les deux Dakar? Tu vas faire d'autres courses ou tu vas simplement t'entraîner?
Alors, tout dépendra du budget. C'est vrai que moi, j'aimerais faire beaucoup plus de courses pour me maintenir en forme sur la moto, pour avoir les réflexes. Mais ça coûte tellement cher qu'une fois qu'on a fait le Dakar, souvent... On fait quelques courses d'enduro dans le coin et puis on attend le Dakar. Mais cette année, dans les tuyaux, on va essayer de faire le Maroc au mois d'octobre et puis certainement deux trois petites courses de rallye beaucoup moins longues pour pouvoir maintenir la forme. Mais on en a parlé ce week-end, donc rien d'officiel. Maintenant, il faut que je fasse le point avec les partenaires. Il faut qu'on discute de tout ça et qu'on mette ça sur papier. Donc aujourd'hui, rien d'officiel, mais l'idée est de faire le quelques épreuves de championnat du monde avant le Dakar.
Eh bien, on va te souhaiter plein de bonnes choses pour le futur Dakar. Et puis,
ouais, merci.
Et puis, ben, j'espère que tu vas trouver aussi des partenaires, voilà, pour pouvoir faire d'autres courses. Moi, je fais de la compétition automobile. Je sais ce que c'est de rechercher des partenaires. Je sais ce que c'est.
Ouais, c'est ça.
Et c'est pas toujours très simple, mais voilà, on te souhaite, ben, comme on dit, bon vent et puis plein de bonnes choses pour cette saison 2024. Et puis, donc, on te suivra au départ du Dakar 2025.
Merci, c'est sympa. Et puis, bonne continuation à tous et puis au plaisir.
Alors, rappelons le classement général de ce Paris-Dakar dont on vient faire l'interview de Guillaume Chollet qui a participé et fini à la 58e place. Donc, le vainqueur de l'épreuve moto, c'est Ricky Brabec sur Honda qui a disputé l'épreuve en 51h30 et 8 secondes. Troisième, Roche Brunch qui était à 10 minutes derrière du vainqueur. Le premier français est Adrien Van Beveren, qui a fini à 12 minutes du vainqueur. Donc, eh bien, il y a eu également un accident mortel sur ce Dakar, c'est pour ça qu'on parlait du danger. Un pilote espagnol s'est tué au cours de cette épreuve suite à une chute. Donc, effectivement, le Dakar, c'est assez dangereux. Hein, c'est, même en loto, hein, c'est pareil. Il y a quand même des fois des accidents spectaculaires. Donc, voilà, eh bien, on nous donne rendez-vous à tous ces pilotes au Dakar 2025. Et donc, on suivra également cette future épreuve. Parler ensuite du rallye enduro opale du Touquet, épreuve qui a été créée en 1975 par Thierry Sabine. Elle se déroule sur les plages et dans les dunes à côté de la ville du Touquet. Donc il y a beaucoup d'épreuves, il y a ce fameux départ où se trouve après une espèce de goulotte où il y a beaucoup de pilotes qui s'ensablent. Et donc Christian Cézelki s'est rendu là-bas pour interviewer des pilotes dont le vainqueur Todd Kellett, pilote de la Yamaha, et également nous a réalisé quelques photographies également de cette épreuve. C'était la 48e édition cette année. Il y avait de nombreux participants de tous les âges, hein, puisqu'il y a des jeunes, des moins jeunes. Il y a également une série vintage, et il y avait également un pilote fantaisien, David Herboto, qui a gagné la catégorie vintage. Donc bravo à ce pilote vendéen qui a fait briller nos couleurs là-bas dans le nord. On va écouter l'interview de Todd Kellett, le vainqueur du rallye du Touquet.
C'est incroyable, vraiment incroyable d'avoir gagné cette grande course et revenir après mon accident en octobre. Je ne croyais vraiment ne pas pouvoir rêver de cette victoire. Et je remercie particulièrement ma femme, mon équipe Yamaha pour tout leur soutien. L'entraînement n'aurait absolument pas été possible sans eux. Ils sont là depuis le premier jour et je suis content de récompenser tout le monde avec cette belle victoire. C'est vraiment incroyable ce qui m'arrive.
Donc bonjour Christian, eh bien raconte-nous un petit peu cette épreuve du rallye tout-terrain du Touquet et également ce que tes impressions de cette épreuve de motocross.
Bah écoute Olivier, l'enduropale c'est c'est une course mythique. Alors pourquoi elle est mythique ? Parce que déjà c'est une course sur sable qui a pendant longtemps gagné en prestige de par la difficulté de la course. Donc là-bas sur le Touquet avec les éléments météo qui rentrent aussi en ligne de compte parce que ça a toujours été un terrain d'antan très compliqué et en plus c'est une course qui réunit énormément d'amateurs, donc c'est une course à la fois qui réunit des professionnels, donc des grandes teams qui se constituent pour gagner et en même temps des amateurs qui sont là pour réaliser la même course du début à la fin, donc avec tous les aléas que ça peut donner d'un point de vue à la fois technique, mais aussi tout simplement par des possibilités d'accident sur ces amateurs qui ne maîtrisent pas leur sujet comme le font les professionnels. Alors ça donne un vrai charme à la course, même si depuis, c'est sûr qu'il y a 25-30 ans, quand on courait, enfin les pilotes étaient en course dans les dunes. Donc maintenant, les coureurs ne vont plus dans les dunes, hein, puisque pour des raisons écologiques, et ce qui est tout à fait logique. Donc on essaye actuellement de rendre les difficultés supplémentaires sur la piste en créant, en fin de compte, des vagues, par exemple, des grands sauts, etc. Mais je pense que les pilotes professionnels, maintenant, sont très rodés, en fait, à ce type donc de sujet. Et j'ai envie de dire, ça laisse de moins en moins de place un peu au charme et à la surprise hors, on va dire, concurrents amateurs qui peuvent faire peut-être basculer un petit peu l'épreuve. Mais même dans les stands, en fait, les teams maintenant, globalement, il y a peut-être 10 ans, on pouvait gagner aussi avec un arrêt au stand en moins ou en plus, en fonction de la tactique. Maintenant, tout est assez nivelé, donc les courses peuvent paraître peut-être un petit peu plus, fades qu'à une certaine époque, on va dire ça comme ça.
Oui, parce que je me souviens à l'époque, l'enduro du Tuquet, c'était un petit peu un parallèle avec le Paris-Dakar, puisqu'elles ont été créées toutes les deux par Thierry Sabine. Effectivement, on voyait les amateurs qui avec leurs moyens, essayaient de faire une belle course. Et aujourd'hui, comme tu dis, effectivement, de plus en plus, au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus de pilotes professionnels, comme au Dakar d'ailleurs, hein, voilà, c'est devenu aussi la même chose. Et est-ce que tu as pu interviewer, par exemple, des amateurs, justement, pour avoir l'impression de cette course?
Alors, c'est marrant que tu me poses cette question-là, parce que je pense que c'est peut-être ce que j'ai fait le plus dans ma vie quand j'allais dans ces enduros, c'est d'aller voir les pilotes amateurs et de leur parler. Pourquoi ? Parce que même mon propre frère a fait cette course une fois, ça a été un de ses rêves d'enfance de participer une fois à l'Enduropale, il l'a fait en 2005, donc aussi grand que moi et basketteur, en plus après une opération de la hanche, il a pu participer à cet Enduropale à l'époque, et je pense que ça fait partie du charme de voir, en fait, là, y compris dans les stands, donc on a été voir des écoles de pilotage, par exemple, pour comprendre en fait ce que pouvaient apprendre les jeunes qui sont non seulement pilotes, mais aussi la majorité qui aide à l'assistance, parce qu'il y a aussi toute l'intendance derrière, hein, que ça occasionne de participer à un enduro, et pour l'avoir moi-même vécu dans le stand, entre le panotage, la préparation, l'alimentation, voilà, même si chez les amateurs l'alimentation peut être un petit peu plus festive, on va dire ça aussi comme ça. Voilà, donc dans les coulisses, ouais, je participe beaucoup à cette grande fête de la moto, et je parle beaucoup aux pilotes amateurs. Mais par contre, ce qui est aussi sympathique d'avoir vécu cette année, c'est d'aller dans les teams, donc pour parler, et les sportifs professionnels sont très très abordables, même dès l'arrivée, en fait. Donc on a pu parler, entre autres, un petit peu avec Lars Van Berkel, avec Todd Kellett, Cyril Genot, donc ils sont très très abordables, et aussi les féminines, donc qui ont participé à cette compétition, et donc pareil, avant de rentrer sur le podium, elles sont tout à fait abordables, accessibles, et ça reste un monde vraiment sympa, voilà, abordable, sympathique, et une convivialité autour de cette discipline.
Et justement, les gens qui ont connu un petit peu l'ancien circuit et le nouveau, qu'est-ce qu'ils pensent justement de ce changement, justement, de décor?
Bah, je vais te répondre par rapport à mon expérience et mon vécu, hein. C'est sûr que à l'époque, quand il y avait les dunes avec le fameux franchissement du goulet, c'était extraordinaire. Mais par contre, alors, ça donnait lieu aussi, je l'ai constaté de mes propres yeux, à des scènes alors, d'anthologie rocambolesque, parce qu'il y avait aussi à l'époque, on ne va pas se le cacher, il n'y avait pas toujours les réalisations télévisées. Donc c'était facile de passer certains passages qui n'étaient pas c'était pas très légal, mais les teams étaient préparés pour ça, c'est-à-dire qu'en fait ils envoyaient beaucoup de monde sur le circuit qui favorisait le passage de certains coureurs pour gagner du temps, et on pouvait facilement gagner une minute sur de la, entre guillemets, de la triche, mais j'ai connu cette époque, ouais, tout à fait. Donc après, il a fallu qu'on multiplie, du coup, là je salue aussi les commissaires de course, hein, maintenant, qui sont aussi sur la piste et qui font un travail remarquable, vraiment, pour signaler, justement, pour éviter que les pilotes se percutent, se blessent. C'est très compliqué, hein, je vous dis, pour l'avoir vu là de près, mais même déjà à l'époque, je l'ai vu de près, il a fallu augmenter le nombre de bénévoles à l'époque déjà sur le circuit pour empêcher en fait le système de triche et de jouer ce fameux rôle d'arbitre pour que la course soit le plus clean possible. Mais c'est vrai qu'il y avait un charme qui existait à l'époque, qui n'est plus là maintenant, faut apprendre à faire avec, mais il y a toujours ce charme de toute façon de l'inattendu, hein, qui peut arriver dans ce genre de course interprofessionnelle amateur, quoi.
Alors, est-ce qu'il y avait des quads aussi? Parce qu'à une époque, je voyais qu'il y avait des quads.
Oui, tout à fait. Il y avait la course du Quaduro, donc qui avait lieu le samedi avec le cavalier seul un peu de Randy Navo qui a remporté l'épreuve. Donc c'est là où je pense que certains qui se préparent effectivement à gagner, c'est comme un petit peu en Formule 1, hein, quand on se prépare vraiment et qu'il y a des teams qui mettent aussi du coup un peu de budget sur le fait que ouais, il y a quand même un prestige à avoir dans la marque par rapport au fait de gagner une épreuve. Bon, là, Randy Navo, il a effectivement été, il a fait cavalier seul, quoi. Alors, un peu à l'image d'un Todd Kellett, même si on a entrevu dans la course de l'Enduropal, la course normale, on a entrevu quand même peut-être quelques petites histoires qui peuvent apparaître pour le futur de l'épreuve. Notamment avec les frères Mio par exemple, qui peuvent être, ça peut être sympa de les voir concourir sur ces prochaines années. Et puis voilà, quoi, même ce qui s'est passé, là, Cyril Genot qui lui avait une blessure, Lars Van Berkel qui était présent, enfin, à part Todd Kellett qui était vraiment devant et qui était au-dessus de toute façon, ça peut donner. Puis il y avait aussi Mikko Petisek qui était absent, hein, donc là ça donne forcément aussi une saveur en moins potentielle à une adversité qui pouvait peut-être pousser Todd Kellett un peu plus dans ses retranchements, quoi.
Alors, comme tu parlais des pilotes pro, mais je pense aussi il y avait toutes les générations, les jeunes pousses et les vétérans aussi sur cette épreuve.
Ouais, tout à fait. Il y a des courses donc pour les espoirs. Donc qui ont eu lieu. Alors là, par contre, pardonnez-moi, j'ai pas les résultats là en face de moi. Et puis bon, pour l'instant, les jeunes pousses, on va dire, c'est beaucoup d'écoles de pilotage qui servent un peu d'essai. Donc on n'a pas la même lisibilité sur les jeunes dans le monde du motocross actuellement que dans d'autres sports, peut-être où justement on va peut-être rechercher des noms beaucoup plus jeunes et beaucoup plus tôt pour voir effectivement les futures stars des compétitions. Et sinon, le vendredi, il y a aussi donc la course vintage qui a vu donc la victoire de David Herbreteau qui est fontenaisien, donc du Sud Vendée, donc cocorico au Sud Vendée. C'est top d'avoir un pilote justement qui a gagné l'Enduropal, et en plus mine de rien, on peut dire qu'il a été quand même en face de certaines légendes de son sport, et notamment donc Adrien Van Beveren quand même, qui faisait la course du vintage. Je peux vous dire que de remporter cette victoire est tout sauf, c'était pas simple de gagner le vintage cette année avec les coureurs qu'il y avait en face. Et puis je fais une petite dédicace personnelle, s'il m'écoute, à Vincent Cambier, qui, je l'espère, gagnera un jour le vintage.
Bien, merci Christian pour toutes ces informations.
Je pourrais rajouter un petit point particulier sur l'Enduropal. C'est toujours, on a une attente particulière au moment du départ. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà, je pense, vu les images, mais si vous ne les avez pas vues, vous, auditeurs, allez voir les images de ce qu'est l'Enduro, au moins en départ, pour savoir ce que c'est. Les départs, c'est extraordinaire. D'ailleurs, à vivre juste à côté, entre le son et les vibrations, c'est phénoménal. Hein. Donc, si vous voulez un jour aller, en tout cas, voir ces courses, c'est quelque chose à faire. Je voudrais juste avoir une petite mention particulière. Donc pour la première personne qui arrive au premier virage en bout de ligne droite, donc qui s'appelle le all shot, hein, qui rapporte un prix particulier, donc du all shot, donc le premier qui arrive, et à une personne qui a failli faire ce all shot cette année. Alors il a peut-être un petit peu volé le départ, mais c'est pas très grave. Il s'appelle Alex Alétru, et c'est quand même vous raconter en un instant son histoire. C'est quand même une personne qui est devenue paraplégique suite à un accident dans une compétition de motocross. qui était un des plus grands espoirs du sport motocross en France. Ça devait être en 2010, je crois, en Estonie. Et donc, il a failli ne plus jamais remarcher. Et en fait, je pense que tous les médecins le condamnaient à ce qu'il ne puisse pas remarcher. Le seul qui a cru en son projet de pouvoir un jour remarcher, c'est lui. Et soutenu après par sa famille, qui avait du mal à y croire, mais en tout cas, ils l'ont soutenu. Ils ont tout fait pour que ce soit le cas. Moi, j'ai assisté à une conférence. Il fait des conférences. C'est une personnalité vraiment extraordinaire de résilience et ça donne beaucoup d'espoir. Et là, l'avoir donc vu au départ, donc il a gagné aussi une épreuve du Dakar, Olivier, donc Axel, il a gagné une épreuve du Dakar. Il a été aussi champion de natation, champion de France de natation en e-sport. Donc c'est une personnalité à suivre. Et donc là, sur cet enduro, il a failli faire le all shot, donc pour remporter donc le prix justement du premier qui arrive au bout de cette ligne droite. Et donc après, donc il s'est laissé tomber. Il a pas pu faire la course justement pour qu'on puisse le récupérer. Donc voilà, un grand big up à ce projet qui était extraordinaire et qui vont donner aussi au monde donc du coup du handicap un coup de boost réel pour les possibilités, parce que remonter sur une moto 14 ans après un accident qui lui a coûté peut-être beaucoup, mais en même temps qui lui a fait découvrir aussi beaucoup, je trouve ça formidable. Et du coup, j'étais aussi à ses côtés au moment où il a quitté la piste. Je l'ai chaudement félicité. C'était juste un moment incroyable que de le voir lui avec son staff à ce moment-là. Et il est extraordinaire, quoi.
Justement, tu parlais du handicap face au sport mécanique. Effectivement, il y a des nouvelles technologies qui permettent justement, malgré son handicap, de pouvoir participer à certaines épreuves. Je pense notamment à Frédéric Saucet, qui a disputé les 24 heures du Mans en 2016. Je pense aussi à Philippe Crozon, qui a fait le Paris-Dakar. Donc ça laisse une belle leçon de courage et aussi plein d'espoir pour les autres.
Tout à fait. Donc n'hésitez pas à aller voir effectivement les exploits. Donc parfois, ce sont des événements qui ne sont pas forcément médiatisés, mais je vous invite à aller vous-même regarder ce qui se passe dans ce monde-là, parce que finalement, des fois, je pense que juste de constater, de voir ce qui se passe, ça redonne beaucoup d'espoir, beaucoup de foi, y compris sur nos capacités, nos propres capacités, quand on a la chance d'en disposer, en tout cas.
Merci Christian pour ces informations.
Mais je t'en prie, Olivier.
Merci à tous de votre écoute et on se donne rendez-vous bientôt au mois de mars pour la prochaine émission de Full Course Hello.
Toute la journée, vous écoutez Digradio sur digradio.fr.